C'est moi, c'est Lola.
Celle qui dit v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots.
Personne agent personne par Charles Danzig. Auteur Harvey Fierstein, né en 1952, américain. Confession juive, politique, démocrate, gay. Œuvre Torch Song Trilogy, pièce de théâtre en trois parties, respectivement représentées à New York en 1978, 1979 et 1981, puis film mis en scène par Paul Bogart sur un scénario et des dialogues de Fierstein d'après sa pièce en 1988. Personnage Arnold Bekoff. Nous vivons un temps de virilité paniquée. Quand les façons de vivre de certaines minorités cessent de rester cachées, cela engendre souvent des réactions apeurées et de là, parfois, hargneuses. Se fondant sur des paniques qui ne viennent que de l'ignorance, certains organisent très bien la défense par l'attaque. C'est ainsi qu'un professeur d'une université canadienne de troisième ordre, à force d'aboiements sur un blog, a fini par se rencontrer avec le chenil des mécontents et le voici devenu le supposé pape du virilisme. Il y a des collabos, je pense à la très comique tribune de certaines femmes dans Le Monde en janvier dernier, si mal écrite qu'on y reconnaissait très bien le simplisme qui se voudrait paradoxal d'une bourgeoise se rêvant révoltée qui est une des signataires. Les réponses hystériques, quant à elles, sont organisées par des politiciens voyous et par les gens de l'étrange espèce appelée commentateurs. Ce sont des personnes sans aucune qualification mais qui ont des avis sur tout. Ceci, raison de cela sans doute. Ils ont à la seconde des opinions arrêtées sur l'histoire du Guatemala, la pilule du lendemain ou l'héritage de Johnny Hallyday, et choses merveilleuses sont payées pour les exprimer. Et voici un des mots du temps, une technique devenue pensée. Comme il faut remplir des millions de médias 24 heures sur 24, on va chercher le premier narcissique qui passe et qui est prêt à dire n'importe quoi pour qu'on le regarde. La véritable pensée, n'est-ce pas, ne parle que de ce qu'elle connaît. Qui plus est, elle ne sait pas débattre avec ses spécialistes du ring. Et voilà comment l'intelligence est attaquée, seconde après seconde, par l'hystérie, la mauvaise foi et la bêtise. La virilité, n'est-ce pas, est aussi variable que le mariage. Me voici en 1500. Je regarde un homme, avec des dentelles, des bagues, des pourpoints à plis crevés. Tapette ! Cette tapette est François Ier. La virilité entendue comme un comportement à la John Wayne a longtemps été une posture prise par des gays eux aussi paniqués et à bien plus juste titre que les autres parce qu'on leur cassait la figure, mais ils ont contribué à solidifier cette terreur. Pour la contrer, il y a la pédagogie qui sert à faire comprendre à ceux qui ne savent pas ou ne savent pas raisonner. Elle explique au moyen de faits et d'exemples qu'il n'y a pas de danger, que personne n'a de mauvaises intentions. Elle montre. Et puis, il y a les personnages de fiction, ils sont un mode de raisonnement par la sensation. En vivant près d'un personnage pendant plusieurs semaines, on est amené à admettre ses défauts. On peut trouver Emma Bovary idiote, mais on comprend les raisons de son adultère, et comprendre, c'est déjà aimer. Dans Torch Song Trilogy, Harvey Fierstein a créé un des premiers personnages de drag queen qui ne soit pas ridicule et destiné à faire rire de mépris. Arnold vit à New York dans les années 70. Fierstein, lui-même, interprète le rôle dans le film. Voici donc une personne qui interprète un personnage qui interprète un personnage. Pour parler d'Arnold, je reçois Frédéric Norbert, comédien, un des interprètes à Broadway de l'adaptation par Harvey Fierstein de La Cage aux Folles. Frédéric Norbert, pour commencer, à quoi ressemble physiquement Arnold ?
C'est un homme qui pourrait être viril et qui, curieusement, ne l'est pas. Il est grand, il est carré, il a une voix éraillée comme ça, qui pourrait faire ressembler à un macho absolument magnifique. Et c'est tout le contraire, parce que c'est sa vie intime, voilà. Il n'est pas de cet ordre-là. Et il aura des difficultés énormes à assouvir sa sexualité, sa personnalité, son côté drag queen et travesti, l'immense bonheur de toujours s'habiller d'une façon différente des autres, voilà, et de parler d'une façon différente avec cette voix d'outre-tombe.
L'histoire se passe en trois périodes. D'abord, très brièvement, l'histoire d'Arnold à Brooklyn quand il est tout petit en 52, puis une partie à New York en 1971, et l'histoire finit. Et c'est important à New York en 1980. Et si je dis que c'est important, c'est que ces dates, Fierstein les a choisies à dessein pour éviter la problématique du sida.
Oui, exactement. Exactement. Et le sida est arrivé. Moi, j'étais ma première, sur les 5 ans aux États-Unis là-bas, ma première année était en 80 à Las Vegas. Et en fin 80, parce que tout le monde ici à Paris dit 85. Non, 80. Et j'ai vu le premier reportage à la télévision. C'était absolument terrifiant. Absolument terrifiant. Et j'ai acheté 15 jours plus tard à Las Vegas le Paris Match. Et la couverture, c'était un couple d'hommes avec le sarcome de Kaposi. Et ces deux hommes sont morts quelques mois plus tard. Évidemment, il n'y avait pas de trithérapie à l'époque. Donc le sida est apparu pour nous. En tout cas, quand je l'ai vu à la télévision, c'était décembre 80. Et je m'en souviens parfaitement bien.
Donc Feierstein montre une période antérieure à ça.
Mais bien sûr, et c'est pour ça, par rapport à la pièce, on en parle très peu du sida. Et on en parle beaucoup dans le film.
Alors, quelle différence y a-t-il entre la pièce et le film
que... Oh là là, il y a beaucoup de différences.
Il y a beaucoup de différences.
Par exemple, l'actrice La Mère, Estelle Getty, magnifique actrice. Elle était toute petite physiquement, comme ça. Et elle était un petit peu caricaturale, très drôle, mais un peu caricaturale. Alors que Anne Bancroft, dans le film, est tragique. Elle est toujours au bord des larmes. Et c'est une immense actrice. L'autre aussi était une grande actrice, mais... plus caricaturale. Et Anne Bancroft, elle y apporte une humanité folle. Et hélas, un refus, un rejet, bien qu'elle aime son fils. Mais elle n'aime pas le voir avec des robes, avec des talons, avec du maquillage, avec cette voix, etc. Elle rejette un peu son fils alors qu'elle l'aime profondément parce que c'est la vraie maman, cette femme-là. Sauf que elle est tragique parce qu'elle a du mal à accepter tout ça chez son fils.
Il faut raconter ce qui se passe. Donc, Arnold a une sexualité, mais il a aussi un métier. Et oui. Son métier, c'est drag queen. Drag queen, c'est pas un métier. Il dit, I am a female impersonator.
That's right. Dire.
Voilà. Ouais. Alors, qu'est-ce que... Il travaille dans un cabaret, quoi.
Alors, female impersonator, c'est dans un cabaret. C'est comme, depuis des années, nous voyons ici à Paris, chez Michou, c'est le travestissement de gens connus. Ça peut être un chanteur, une chanteuse, une actrice, ou etc., etc. Et on s'en approche le plus possible. Sauf que la drag queen n'est pas nécessairement un travesti. La drag queen, ça peut être quelqu'un dans la ville. La preuve, c'est que les hétéros disent « Ah putain, t'as vu cette drag queen ?» Et voilà, et ça peut être juste un homme très efféminé, qui n'est pas en robe, qui n'est pas en perruque, qui n'est pas maquillé. Simplement, le comportement physique est tellement débridé, tellement féminin, que on dit c'est une drag queen. Ça, c'est la définition, on va dire, de l'hétéro basique par rapport aux homosexuels qui sont un peu féminins, vous voyez. Mais sur scène, dans les bars de l'époque, dans les bars à Paris de l'époque, dans les années 70, etc., tout le monde s'habillait, se maquillait. Je parle des gens qui faisaient un numéro sur scène. Et c'est ce que faisait Harvey Fierstein.
D'ailleurs, Arnold, dans le film et dans la pièce, puisqu'il est donc drag queen au cabaret, le reste de la journée, il est habillé en homme, il vit en homme. Et...
Normalement. Voilà. La preuve, c'est qu'il veut des enfants. Il le dit.
Alors, qu'est-ce qui lui arrive? Racontez-moi l'histoire d'Arnold.
Ce qui lui arrive, c'est qu'il est comme tout le monde, c'est-à-dire qu'il est dans une famille où il n'est pas apprécié, où il n'est pas aimé, et que l'homosexualité, ça ne s'invente pas, c'est un état, c'est dans la tête, et donc dans les actions, et que personne n'y peut rien. Et il aimerait tellement être accepté, tellement être aimé. D'ailleurs, il le dit dans la pièce et dans le film. Il le dit à sa mère, avec ses rapports conflictuels avec sa mère. Et il dit « J'aimerais que tu m'aimes et que tu m'acceptes. Et si c'est pas le cas, basta. Go !»
Donc au début, Arnold, il mène une vie de patachon, il fait la tournée des bars, il va dans les backrooms, et puis il tombe amoureux d'un type.
Oui, absolument. Mais c'est un grand amoureux, Arnold. C'est un grand amoureux. Sauf que le mec, il est bi, un poil gigolo, physiquement. Il est plutôt beau, évidemment, et donc Arnold est sous le charme de ce type-là. Sauf que ce type, va l'abandonner plus tard pour une femme. Et après... Quand cette femme va l'abandonner à son tour, il va revenir vers Arnold, comme si de rien n'était, dans les coulisses de son cabaret.
Mais là, vous allez un peu vite, parce qu'entre-temps, il y a eu un autre garçon.
Ah oui, bien sûr. Il va être fou amoureux. Et Dieu sait s'il a été très amoureux du premier, du bi. Mais de celui-là, ça va être encore plus grand. Cet amour va être inconditionnel. Et ce gamin, ce jeune, quoi, il va être aussi dingue de lui. Ça va être une histoire à deux. Ça sera pas que d'un côté. Voilà.
Et alors, ce garçon, donc, qui est le premier rôle de Matthew Broderick au cinéma, est assassiné un jour dans une...
Terrifiant par une bande. Voilà. Et alors qu'il voulait défendre quelqu'un qui se faisait tabasser, et il aurait jamais dû faire ça parce qu'il a perdu la vie. Et ça, c'est terrifiant. Et ça se passait tout le temps, et ça se passe encore maintenant. On est quand même en 2018.
Et donc, ce pauvre garçon est assassiné. Arnold avait entrepris une procédure d'adoption avec lui.
Ouais.
Et la fin du film, on retrouve Arnold avec son précédent amoureux, et qui vit en ménage avec ce jeune garçon qu'ils ont adopté.
Ouais, absolument. C'est incroyable. C'est incroyable qu'il considère comme son fils. D'ailleurs, il dit bien plus tôt, je veux des enfants. Et il le dit clairement. Alors, ce qui est quand même incroyable, quoi. Pour une, comme on dit, drag queen, la première chose qu'il veut, ce sont des enfants. Donc, c'est le manque d'équilibre qu'il a dans sa vie qui fait qu'il a envie d'avoir des enfants.
Alors, dans ce film et dans le personnage d'Arnold, je trouve qu'il y a une intention, je dis bien kitsch. Et on le voit dans cette phrase que Arnold dit au début, j'ai couché avec des milliers d'hommes, mais à ce jour, aucun ne m'a dit, Arnold, je t'aime.
Absolument.
Et il faudrait que vous m'expliquiez à cette occasion le titre du film. Qu'est-ce que c'est qu'une torche sang aux États-Unis?
C'est une chanson qui dérange, qui décape, qui en fout plein la gueule à tout le monde. Et par exemple, la chanson dans La Cage aux Folles, puisqu'il a adapté plus tard La Cage aux Folles à Broadway, I Am What I Am, c'est une chanson qui est la reconnaissance totale, qui est une demande par rapport à la société, qu'on accepte cette personne-là qui se maquille, qui s'habille comme une femme et qui parle fort, qui gesticule et qu'on l'accepte simplement comme elle est dans la vie et que ce soit réciproque. Et c'est ça.
En fait, une torch song, ça veut dire chanson flamboyante. C'est une chanson très intentionnellement outrageuse et sentimentale.
Absolument.
Voilà. Donc,
absolument. Qui met le feu.
Voilà.
Et torch song. Feu.
Et donc, Fierstein nous signale bien qu'il y a une intention, un deuxième degré, si je puis dire, dans son film.
Ah, bah oui, exactement.
Le film, il faut le dire, commence par un morceau de bravoure extraordinaire qui est Fierstein, qui donc joue le rôle de Arnold, qui s'adresse au spectateur en train de se maquiller pendant 10 minutes.
Oui, ça, j'adore. Ce close-up. Ce gros plan et face caméra, face aux gens, c'est osé, hein, c'est gonflé et je trouve ça absolument magnifique et ça place tout de suite le personnage face à ses problèmes qui expose sa situation, qui expose sa personnalité et qui dit voilà, je suis comme je suis, I am what I am. Avant l'heure, par rapport à la chanson plus tard dans le film. C'est dans la comédie musicale. C'est de La Cage aux Folles, là, je parle. C'est incroyable. Parce que il se place devant l'éternité.
Alors, vous le disiez, Arnold a une voix très grave et très reconnaissable. Ça lui donne l'occasion de cette réplique extraordinaire qui est avec une voix et un visage pareil, je n'ai pas à m'inquiéter, je pourrais toujours être chauffeur de taxi. Et donc, il faut dire que dans le personnage d'Arnold, il y a une conjonction assez rare d'humour juif comme là, car il est juif, et d'humour folle. Et là où le personnage est intéressant à mon sens, c'est qu'il affronte deux complexes, c'est-à-dire le complexe de la virilité américaine.
Ouais.
Et le complexe juif de la virilité qui existe aussi parce qu'on leur a assez dit le fameux complexe du frayeur. On a tellement reproché aux juifs de s'être laissés abattre comme des moutons, ce qui est bien sûr faux, qu'ils ont décidé de ne pas avoir l'air de ça.
Exactement.
Et donc, il faut avoir l'air archiviril. Donc, il y a cette double querelle de virilité.
Oui, c'est une petite guérilla comme ça, une petite querelle. Et surtout, en plus, la mère, le portrait de la Jewish mama, elle est terrible. Elle est terrible. Et donc, elle en devient de temps en temps caricaturale. C'est ce que je disais. Alors que c'est quand même une personne, une femme humaine, une femme qui aime son fils, qui le dit, mais qui ne fait rien pour lui donner les clés. Ça, c'est terrifiant.
Oui, il y a d'ailleurs une scène au cimetière où ils sont tous les deux ensemble et où il récite le kaddish, elle devant la tombe de son mari défunt et lui devant la tombe de son petit ami assassiné.
Ouais.
Et elle lui dit, tu vas comparer 35 ans de mariage et deux enfants avec ça.
Et avec une colère démesurée qui est exagérée, mais qui n'est pas exagérée pour la Jewish mama.
Cela dit, mère juive, moi j'ai tendance à penser que toutes les mères sont juives dans ce cas-là et une mère catholique pourrait très bien dire la même chose.
Vous pensez vraiment, je suis... Ah bon ?
Oh, je crois.
Alors ça, c'est vous qui le dites.
Alors, il y a une chose qui est... Il y a une chose frappante dans Arnold, c'est qu'il est laid. Et ça n'empêche pas qu'on lui trouve du charme. D'ailleurs, son premier petit ami, vous n'êtes pas d'accord, vous trouvez qu'il n'est pas...
Non, vous savez quoi ? Quand il fait le film, il perd 25 kilos pour le rôle, pour le film. Il est un peu plus âgé que par rapport à la création à Broadway et dans les trois... petit théâtre dans le village avant. Et du coup, quand vous le voyez dans le film, et d'ailleurs ça commence par ce très gros plan et tout, je le trouve presque beau, je le trouve touchant, émouvant, parce qu'il s'est délesté de 25 kilos et ça lui va bien.
Oui, mais même s'il a maigri dans le film, il bat très bien. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un film qui sert à nous dire aussi qu'il n'y a pas de laideur.
Oh ben oui. Et puis même moi, je vous dis, je le trouve pas laid. Hein.
Nous allons maintenant entendre la chanson qui conclut le film. Une très belle chanson dans une très belle interprétation d'Ella Fitzgerald, This Time the Dream's on Me, composée par Harold Arlen sur des paroles de Johnny Mercer en 1941. Cette fois-ci, le rêve est pour moi. Somewhere, someday. Close together, wait and see. Oh, by the way, this time the dream's on me. You'll take my Frédéric Norbert, à la même époque que Torch Song Trilogy aux États-Unis, se donnait en France une pièce que vous avez citée et avec grand succès, qui était La Cage aux Folles, et que d'ailleurs Firestein a adopté à Broadway, vous le savez très bien puisque vous y avez joué.
Et non, puis je faisais partie de la création avec Poiret Serrault.
Et vous étiez aussi à la création.
J'avais 19 ans au Théâtre du Palais Royal.
Et vous jouiez quel rôle?
Le petit Salomé von Jebig qui danse avec Michel Serrault dans le club et tout, qui est habillé tout en rouge et maquillé, etc. Et j'avais la doublure du fils parce que tout le monde me voulait dans le fils, mais je faisais... j'avais 19 ans et demi, je faisais 16 ans. Donc, c'est ce qu'ils m'ont dit hein, à l'époque. Donc, ils m'ont dit, non, tu ne seras pas le fils tout de suite, mais voilà, on te donne ce rôle-là qui était formidable. Voilà.
Et puis, le cinéma américain a repris, comme nous le savons, La Cage aux Folles dans The Birdcage, à mon avis, un très mauvais film de Mike Nichols, n'est-ce pas?
Je suis tout à fait d'accord. Alors qu'il y a quelques acteurs et actrices dedans merveilleux et que j'adore, mais franchement, le film n'est pas réussi.
Hein. Non, vraiment pas. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans les commentaires DVD du film que Firestein a fait, avec une certaine insolence, il s'approprie la plupart des scènes et des répliques comme si Jean Poiret n'avait pas existé, comme si c'était lui qui avait...
Poiret, le maître quand même du... Hein, de l'écriture, du boulevard, de la drôlerie quand même. Hein. Il faut redonner à César ce qui est à César. Quand même.
Alors, en même temps, vous saurez ça mieux que moi, mais je crois bien qu'au moment où La Cage aux Folles s'est jouée à Paris, il y a eu plusieurs associations d'homosexuels qui ont protesté.
Je peux vous en parler très bien. Ben, le pauvre Jean s'est retrouvé un jour dans un restaurant et il y a des mecs qui sont arrivés et qui lui ont foutu une poubelle sur la tête, enfin avec tout ce qu'il y avait dedans, devant tout le monde. Et ça, c'était au tout début. Hein. C'était juste après la première, je crois. Et la gay community était contre la caricature de l'homosexualité et du couple homosexuel, ce qui était un peu vrai. C'était un peu caricatural, mais c'était tellement drôle. Et puis, il y a eu un tel succès depuis le premier jour, c'était plein, que la caricature a pris le dessus et que tout le monde s'en est amusé et qu'après ça a été un triomphe et un très grand succès et qu'on a oublié les problèmes du départ. Mais c'est vrai que les homosexuels n'ont pas apprécié au départ que ce soit si caricatural.
Bah, je dirais que c'est une pièce bienveillante malgré elle, parce qu'il y a quand même au départ, c'est quand même de la grosse blague d'hétéro qui se voilà.
Mais complètement.
Et que finalement, c'est l'appropriation par la communauté gay elle-même du personnage en particulier
ouais.
de Zaza Napoli joué bah, par
oui.
Serreau.
Mais Serreau était comme... tellement génial. Mmh. Vous savez, Serreau, il a apporté beaucoup dans la compréhension et l'acceptation des gens par rapport au couple homosexuel. Et je dois dire que j'ai vu beaucoup ce spectacle pour l'avoir joué plus tard en comédie musicale, etc. Et j'ai vu des fois, voilà, je dirais pas qui, mais des couples mal assortis, George et Albin, mal assortis, et c'était terrifiant.
Alors tout ça a été...
Il fallait que le couple d'acteurs et de chanteurs soit merveilleux ensemble, vous voyez. Et quand c'est pas le cas, it's a tragedy.
Tout ça a été une conquête. On oublie ce genre de personnage, puisque finalement, le personnage d'Arnold de Torchank Trilogy forme d'une certaine façon un progrès par rapport à la caricature de la cage aux folles. Avant ça, il n'y avait pas de personnage de drag queen ou de travesti qui était autre que bouffon. Et ça, c'est quand même une chose qu'a apporté Firestein, qui a humanisé un personnage qui était auparavant une simple caricature, ou je me trompe?
Vous vous trompez un petit peu. Dustin Hoffman dans Tootsie, au cinéma, il n'était pas que caricatural, pas que drôle, il était incroyable. Mais il était aussi très touchant, poétique, vraiment, il était merveilleux. Alors que John Travolta dans Hairspray avait un maquillage tellement dégueulasse et une apparence tellement terrible qu'il n'arrivait pas à toucher avec cet aspect physique. C'était pas de sa faute, le pauvre. Alors qu'un vieux film aussi avec Marilyn Monroe et Jack Lemmon, que vous connaissez par cœur, quand vous pensez à la date de ce film-là,
Certains
l'aiment chaud, de ces acteurs-là, et que vous voyez la vérité totale de ces acteurs quand ils sont travestis, ils sont tellement drôles, tellement touchants, tellement émouvants, que des années plus tard, ça fonctionne toujours autant. Ce qui n'est pas le cas de ce pauvre John Travolta, excusez-moi de balancer, mais c'est pas de sa faute, le pauvre. Vous avez vu comment on l'a maquillé? Non, mais c'est une honte. On lui a fait des joues comme ça, des rougeurs et tout, mais on n'y croit pas une seconde.
Ce qu'il y a d'assez frappant dans dans certains lame shows que vous citez, c'est la dernière réplique. Et la fameuse dernière réplique est...
Ah ben j'ai oublié, culte, c'est ce vieux monsieur.
Non, la dernière réplique de certains lame shows, c'est,
oui.
c'est Marilyn Monroe dans le bateau avec le vieil homme,
oui.
Et qui lui apprend qu'il n'est pas une femme. Et Nobody's perfect,
ah,
personne
voilà.
n'est parfait.
Sérieux.
Donc le premier pas dans l'humanité était venu par là. Est-ce
ouais.
que vous ne diriez pas, hein, par paradoxe ou non, Frédéric Norbert, que Torchank Trilogy est devenu un film conservateur? C'est-à-dire que ça véhicule un idéal de mariage un peu kitsch, un idéal d'adoption, enfin, rien au fond qui bouleverse l'ordre établi. Et si on était un peu méchant, on pourrait dire que cet Arnold est un petit bourgeois conservateur qui veut se marier, avoir des enfants.
C'est pas faux. C'est marrant, j'y avais pas pensé. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux, sauf que, bon... L'homosexualité en 70 et l'homosexualité maintenant en 2018, les choses, heureusement, ont quand même un peu bougé. L'acceptation a bougé de l'autre, même s'il y a encore des problèmes. Mais ça vient. Donc je pense que les choses s'arrangeront de plus en plus et que d'un seul coup, ça sera moins bourgeois.
Est-ce qu'il y a, d'après vous, une évolution des personnages de drag queen à travers le théâtre ou le cinéma, ou bien il est absolument impossible, puisque la drag queen est une créature archi-maquillée et figée dans un état définitif, en quelque sorte, il est impossible que le personnage évolue? Est-ce qu'au fond, une drag queen est un personnage?
Mais oui, quand même. Oui, quand même, c'est un personnage. Simplement, comme je vous disais bien plus tôt, il y a des drag queens sans maquillage. Et on dit, oh, ça c'est une drag queen.
Alors expliquez-moi ça.
Eh ben, je veux dire que ça peut a fortiori ne pas être toujours le spectacle qui prime. Ça, moi, je peux voir au théâtre ou dans une comédie musicale un homme habillé en pull rouge avec des lunettes et qui ne soit ni maquillé ni habillé de vêtements féminins et dont le rôle, le personnage est une drag queen, c'est-à-dire un homme très féminin. je dis ça comme ça dans le théâtre, vous comprenez ce que je veux dire. Et que ce soit un rôle écrit et qu'il soit pas du tout déguisé. Vous voyez? Et ça sera toujours une drag queen. Sauf que là, on lui enlève le costume, le maquillage, la perruque, les talons.
Il y a maintenant des personnages de drag queen qui sont devenus plus grand public. Il y a des émissions de télévision comme RuPaul's Drag Race qui passe régulièrement. Comment c'est votre soin?
Parlons-en. Mainstream. Alors là.
RuPaul... Donc il faut peut-être expliquer que RuPaul est lui-même une drag queen nord-américaine.
Voilà, noire, métissée, sublime de beauté, hein, on peut le dire, un corps incroyable, des jambes incroyables, un visage incroyable. Et je m'en souviens très bien quand je vivais aux États-Unis. Moi, je vivais aux États-Unis en 80-85. C'était les débuts de RuPaul. Alors que...
Il organise depuis 10 ans ce concours qui est télévisé dans des émissions.
Et pas seulement, c'est qu'il a réussi, le type. Il a commencé comme Charles Pierce, qui est dans le film, qui est un vieux, comme ça, travesti extraordinaire, qui faisait Bette Davis et qui faisait d'autres grandes actrices. Et moi, je l'avais vu dans un bar. Je me souviens très, très bien. Il était extraordinaire, cet homme-là. Donc ça, c'est formidable que Harvey Fierstein lui ait rendu hommage et l'ait inclus dans son film. Formidable. Le monsieur âgé. Et RuPaul, lui, il a eu de la chance parce que la télévision est arrivée et que d'un seul coup, eh ben, il a très, très vite, après avoir débuté comme Charles Pierce, des années avant, dans les petits bars incognito comme ça du village. Et après ça, il a fait de la télévision. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il a eu son show, où il avait ses invités, comme l'était à l'époque Carol Burnett et toutes ces actrices-là. C'était incroyable qu'une drag queen ait son propre show à la télévision. Et ça, c'est arrivé très vite. Et il est malin. C'est un homme d'affaires avisé, parce qu'après, maintenant, il y a les réseaux sociaux. Et grâce aux réseaux sociaux, il est connu internationalement, dans le monde entier. Donc c'est un petit malin incroyable. Il est formidable.
Et donc il a malgré tout ramené l'idée. On est revenu avec lui à l'idée que la drag queen était juste un personnage de cabaret et de spectacle.
Exactement. Et ça c'est sa grande force à lui, ça je trouve. C'est qu'il a instauré une conduite. C'est pas mal ça.
Alors, justement, ça, c'est la question sur laquelle je voudrais qu'on termine, de la drag queen en tant que personnage ou non. C'est-à-dire que puisqu'elle est elle-même une créature, il est impossible d'y faire passer, sauf comme dans le cas du personnage d'Arnold où il est autre chose qu'une drag queen puisqu'il y a sa vie d'homme à côté. Mais à partir du moment où elle est une créature, elle ne peut être, elle est figée, ce qui empêche toute idée de personnage, d'évolution et de nuance. La seule drag queen qui peut devenir un personnage, est-ce que ça n'est pas le personnage d'Agrado qui se transforme définitivement comme dans tout le tout sur ma mère d'Almodovar?
Ouais, mais ça dépend aussi de l'intériorité de chacun. Et c'est une loi qui n'est pas dictée. Donc ça sera une ouverture pour toujours qui sera différente suivant les gens, suivant ce qu'ils ressentent profondément de l'intérieur. Et ça sera une conduite à avoir ou ne pas avoir.
Frédéric Norbert, que vous a appris le personnage d'Arnold?
The best of times is now. What's left of summer but a faded rose? The best of times is now. As for tomorrow, well, who knows? Who knows? Who knows? So hold this moment fast and live and love as hard as you know how. And make this moment fast because the best of times is now, is now, is now.
Comme si j'étais assis là-haut, paradis, de l'autre côté de ma vie, le paradis acquis.
Réalisation Clotilde Pivin, attaché de production Daphné Abgral, prise de son Valérie Lavalard.
Tous les jours, paradis.
Dans un instant, une saison au théâtre avec Joël Gaillot.
De l'autre côté de la rue, mon paradis perdu. Soudain, quel est ce rayon éblouissant, élu parmi ces mille.